Et sur cette information, la statue de Colbert vandalisée devant l'Assemblée nationale, et on en parle avec Frédéric Régent, maître de conférence en histoire moderne à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et auteur du livre « La France et ses esclaves » aux éditions Grasset.
Oui, bonjour Frédéric Régent.
Bonjour.
Il me semble aussi que vous êtes président du comité national pour la mémoire de l'esclavage, hein, en plus de ça.
Ancien président.
Ancien président.
Vu que le comité national a été remplacé par la Fondation pour la mémoire de l'esclavage.
Oui, alors comment vous expliquez que cette polémique est aussi vive autour de Colbert, que beaucoup de Français, d'ailleurs, redécouvrent à cette occasion, hein, ça il faut le dire aussi.
Cette polémique, c'est un peu l'irruption de l'histoire de la France, de la diversité dans l'histoire de France nationale. En effet, l'histoire de France est ponctuée de personnages à la fois de la monarchie et de la République qui ont été mis en avant dans le récit national qui est fait. Donc Colbert fait partie de cela avec Henri IV, Sully, Richelieu. Et les aspects de la vie de Colbert qui concernent l'esclavage sont devenus beaucoup mieux connus du grand public, et de ce fait, suite aussi au phénomène qui existe aux États-Unis et en Grande-Bretagne, bien on assiste à la même chose en France.
Oui, bon, bah, tout simplement parce que aussi, c'est vrai, il a mis en place le code noir qui n'existait pas à cette époque, hein, donc quand il a succédé ensuite à Mazarin. En quoi se résumait en fait ce code noir ?
Alors, il a initié la rédaction du texte, mais il est mort 2 ans avant que le texte soit signé du roi Louis XIV.
Et il y a son fils, donc, d'ailleurs, qui s'est chargé aussi de la mise en application, hein, par la suite.
Oui, voilà, c'est son fils, qui s'appelle aussi Colbert, marquis de Seignelay, qui a signé le texte. Alors, le texte, en gros, prévoit plusieurs choses. Premièrement, que les esclaves doivent être baptisés dans la religion catholique. La deuxième chose, il régule la violence que peuvent utiliser les maîtres contre les esclaves. Donc les maîtres ont le droit de fouetter et d'enchaîner les esclaves, mais c'est le cas aussi des capitaines de navires à la même époque. Mais ils n'ont pas le droit de les mutiler ou de les condamner à mort. Ça, c'est le privilège qui est réservé à la justice royale. Donc ça, c'est la... Ensuite... autre élément important, c'est que le texte prévoit donc le statut juridique de l'esclave et l'assimile à un bien meuble. Alors, ça ne veut pas dire qu'il l'assimile à une chose, mais ça veut dire qu'il permet sa vente. Et en gros, le débat à l'époque, c'est de savoir est-ce que l'esclave est un bien meuble ou immeuble. Autrement dit, est-ce qu'il fait partie de la plantation et ne peut pas être vendu séparément d'elle, ou est-ce qu'il est possible de le vendre séparément du reste de la plantation, des terres, des bâtiments. Et la réponse qui est donnée par l'édit de mars 1685, qui deviendra d'ailleurs le code noir seulement en 1718 du fait d'un éditeur parisien, c'est de dire que l'esclave est réputé meuble lorsqu'il s'agit d'un domestique, mais lorsqu'il s'agit d'un cultivateur attaché à une sucrerie, il est réputé immeuble. Ouais. Et enfin, dernier point important, le texte prévoit les modalités d'affranchissement des esclaves. Donc il indique que les maîtres peuvent donner la liberté aux esclaves et que ces esclaves, une fois affranchis, auront les mêmes droits que les personnes des libres, c'est-à-dire que les personnes de couleur blanche.
Oui. Ce qu'il faut dire aussi, pour revenir à ce contexte, Frédéric Régent, c'est que c'était d'une sauvagerie inouïe aussi à l'époque. Ça peut sembler effarant quand vous décrivez ça, en fait, sur cette réglementation, mais partout dans le monde, l'esclavage était, il n'y avait pas de grandes règles, quoi. Il n'y en avait pas énormément, quoi. Et c'était la volonté d'essayer d'en mettre un petit peu, quoi.
Alors, il y avait des règles un peu partout, sauf que ces règles étaient locales.
Oui.
C'est-à-dire qu'en gros, en Jamaïque, il y avait le code de la Jamaïque, à la Barbade, le code de la Barbade, et Colbert a voulu unifier le droit de l'esclavage dans les colonies françaises. que le droit ne repose plus seulement sur ce que l'on appelle la jurisprudence, c'est-à-dire que, en gros, un esclave qui s'enfuit, il est jugé par un tribunal, et ensuite, ce jugement devient de la jurisprudence. Donc, l'édit de mars 1685 servait donc à codifier et à réguler les choses, à réguler l'esclavage.
Oui. Merci beaucoup, Frédéric Régent. Donc, je renvoie à votre livre, La France et ses esclaves, aux éditions Grasset. C'est particulièrement intéressant pour connaître, pour avoir des éclairages sur cette période qui fait tant polémique. Et puis, à mon avis, on va continuer de beaucoup en parler. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.
Et ce matin, l'opération coup de poing des hôteliers du Vaucluse contre Booking.com. Patrice Mounier, pardon, est avec nous, président de l'UMI 84. C'est l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie du Vaucluse. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Patrice Mounier. Alors vous menez cette action coup de poing, comme l'a dit Cécile, c'est-à-dire que vous allez augmenter vos prix sur les plateformes, sur la plateforme Booking, de 200, 300, 400%. Mais tout ça, c'est en rébellion face aux méthodes de Booking.com, qui est, il me semble, une plateforme néerlandaise.
Hein. C'est cette plateforme qui, surtout pendant le confinement, nous a posé des problèmes, surtout au niveau des annulations. Ils n'ont pas voulu respecter la règle qu'ils avaient mise en place. Ils ont obligé les hôteliers à rembourser des réservations qui étaient non annulables. Donc là-dessus, ça fait quand même réfléchir les hôteliers qui se sont, pendant les trois semaines où ils ont été au calme, pendant les deux mois où ils ont été au calme, ils se sont rendus compte que Booking allait quand même un peu trop loin. Ouais. Donc sur le plan national, on n'a pas réussi à les mettre autour d'une table. Donc, on a décidé dans plusieurs villes, et notamment donc à Avignon, on a décidé de montrer qu'on pouvait faire sans Booking. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans cette opération faire plier Booking, avec des augmentations de prix de chambres très, très importantes, pour susciter l'intérêt du client qui va se demander pourquoi c'est aussi cher et qui pourra se rabattre sur l'hôtel directement. Et en fait, c'est notre but.
Ouais. Est-ce que vous avez d'autres... Oui, Patrice Mounier, alors, donc, vous le menez à l'échelle du Vaucluse. Je sais que vous avez des contacts avec d'autres départements, hein, d'autres confrères. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont vous rejoindre et mener la même opération?
Non, écoutez, Ajaccio a commencé, mais sous une autre formule. Les hôtels de Cannes vont, pendant les deux semaines du 15 août, font exactement la même chose, puisque nous, on va le faire du 10 au 17 juillet. Et hier, suite à une réunion plénière que nous avons eue à l'UMI par visioconférence, beaucoup de départements se sont engagés à ce que les grosses villes fassent la même chose. Parce qu'il faut absolument travailler en destination avec beaucoup de
départements. Mais est-ce que vous pourriez monter une plateforme concurrente, alors ?
À la française ?
Non.
Non, c'est trop compliqué.
Non, c'est une grosse fake news. Hein. C'est la plateforme de Blanc-Rouge.
Oui, non, mais c'est même...
Blanc-Rouge, c'est pas...
Oui, non, mais sans aller sur une fake news, mais sur la possibilité. Est-ce que c'est jouable ou c'est vraiment trop compliqué à mettre en place?
C'est-à-dire qu'on va arriver, tout petit. On en a deux gros en face de nous. On a donc Booking et Expedia. Par contre, on a récupéré le Bon Coin. Et le Bon Coin s'est lancé dans la plateforme hôtelière avec une commission à zéro jusqu'au 31 décembre et une commission qui serait inférieure à 10% à partir du 1er janvier 2021. Ouais. Donc face aux 20% de Booking, c'est quand même quelque chose d'intéressant et on n'a pas pour l'instant les moyens de monter notre propre plateforme.
Ouais. Patrick Mounier, c'est plus intéressant d'appeler directement les hôtels, on est d'accord.
Voilà, vous avez raison, c'est surtout ça qu'on veut faire montrer, c'est que on veut expliquer de plus en plus aux gens que il y a une différence de prix entre Booking et l'hôtel qui est énorme. Et cette différence de prix va dans les poches de Booking, qui bien sûr ne payent pas d'impôts en France, puisqu'ils ne sont pas installés en France. Il faut savoir que quand même que le Bon Coin paye chaque mois une somme aux impôts qui est la somme que paye annuellement Booking à la France.
Ouais. Ouais. Donc non, mais ça donne effectivement la mesure, bien sûr, de la distorsion de la concurrence. Merci beaucoup, Patrice Mounier. Donc on rappelle votre
message.
Absolument. sont les hôteliers du Vaucluse qui sont à l'origine de cette initiative, qui sera peut-être suivie par d'autres. Et on comprend votre colère. Dans un instant, Cécile.
C'est l'édito politique de Françoise de Gaulle. Elle reviendra sur l'audition du professeur Raoult hier à l'Assemblée nationale. Restez avec nous. 7h19, c'est le Grand Matin Sud Radio.